Le joueur, chapitre 5. Elle était très absorbée. Dès qu'on se leva de table, elle m'ordonna de sortir. Nous prîmes les enfants et nous allâmes dans le parc. J'étais très énervée. Je ne pus me retenir de faire à Paulina cette sotte question. « Pourquoi votre marquis de Grillé, le petit français, ne vous accompagne-t-il plus quand vous sortez et passe-t-il des jours sans vous adresser la parole ?» « C'est un misérable !» dit-elle d'une voix étrange. Je ne l'avais jamais entendu s'exprimer sur le marquis. Je n'insistais pas, je craignais de trop comprendre. « Et avez-vous remarqué qu'il est en bon terme aujourd'hui avec le général ?»« Vous voulez tout savoir? Le général est entre ses mains. Tout est au français. Et si la babouchka ne se dépêche pas de mourir... Le français deviendra propriétaire de toutes les valeurs que le général lui a engagées. » Je l'avais entendu dire, je ne croyais pourtant pas qu'il s'agissait de choses si graves. Mais alors, adieu, mademoiselle Blanche. Elle ne sera pas madame la générale. Elle abandonnera le général et il se tuera. Possible. Comme c'est bien. Quelle franchise! Au moins, elle n'aura pas dissimulé qu'elle ne l'eût épousé que pour son argent. Pas de cérémonie. Et la babouchka? Es-tu morte? Télégramme sur télégramme. Qu'en pensez-vous? Vous êtes bien gaie. Est-ce votre perte d'argent qui vous rend si gaie? Ne me l'aviez-vous pas donné pour le perdre? Je ne puis jouer pour les autres, moins pour vous que pour personne. Je vous avais prévenu que nous ne réussirions pas. « Dites-moi, vous êtes très en peine d'avoir tout perdu. Et pourquoi voulez-vous tant d'argent ?»« Et pourquoi ces questions ?»« Mais vous avez promis de m'expliquer. Écoutez, je suis absolument convaincue que si je joue pour moi, je gagnerai. J'ai 120 florins. Et alors, vous prendrez tout ce que vous voudrez. » Elle fit une moue dédaigneuse. « Que mon offre ne vous offense pas, je suis pour vous si peu de choses que vraiment vous pouvez accepter de moi-même de l'argent. Un présent de moi est sans conséquence. D'ailleurs, j'ai perdu votre argent. » Elle me jeta un rapide coup d'œil. Mon ton sarcastique l'irritait. Elle interrompit la conversation. « Mes affaires ne vous regardent pas. Si vous exigez des renseignements, j'ai des dettes, voilà tout. J'ai emprunté, il faut que je rende. J'avais la folle pensée qu'en jouant, je gagnerais à coup sûr. Pourquoi? Je ne le sais pas moi-même, mais je le croyais. Qui sait? C'était peut-être ma dernière chance. Je n'avais peut-être pas le choix. Peut-être vous fallait-il gagner comme il faut qu'un noyer se raccroche à une paille flottante. Mais ce n'est qu'au moment de se noyer qu'on prend les pailles pour des poutres. « Et pourquoi donc y comptez-vous vous-même? Il y a 15 jours, vous me répétiez sur tous les tons que vous gagneriez nécessairement, qu'il ne fallait pas vous prendre pour un fou, que c'était très sérieux. Et en effet, vous parliez sérieusement, et on ne pouvait rien trouver de plaisant dans vos paroles. »«
C'est vrai, » répondis-je, absorbé. « Je suis sûr de gagner quand je jouerai pour moi. »«
Mais pourquoi cette certitude ?»
Peut-être parce qu'il faut que je gagne. C'est peut-être aussi ma seule issue.
Il vous faut donc aussi beaucoup d'argent? Mais quelle croyance superstitieuse!
N'est-ce pas? Que puis-je faire de beaucoup d'argent, moi?
Cela m'est égal, mais si vous voulez, eh bien oui. Quel motif sérieux pouvez-vous avoir de désirer une fortune? Qu'en feriez-vous? Vous êtes un homme sans ordre, instable. « Je ne vous ai jamais vu sérieux. »«
À propos, » interrompis-je, « vous avez une dette, et une jolie dette. »« Aux Français, n'est-ce pas ?»«
Vous êtes particulièrement insupportable aujourd'hui. N'êtes-vous pas ivre ?»«
Vous savez qu'il m'est permis de vous parler très franchement, et même de vous interrompre. »«
Je vous le répète, je suis votre esclave, et on ne rougit pas devant un esclave. » « Quelle sottise! Je n'admets pas du tout votre théorie. »«
Je ne vous ai pas dit, remarquez-le, que je suis heureux d'être votre esclave. J'en parle comme d'un fait indépendant de ma volonté. »«
Soyez franc, pourquoi avez-vous besoin d'argent ?
Pourquoi avez-vous besoin de le savoir ?
Comme vous voudrez.
Elle releva la tête avec une inexprimable fierté.
Vous n'acceptez pas ma théorie de l'esclavage, mais vous la pratiquez. Réponds et ne raisonne pas.
Soit. Vous me demandez pourquoi j'ai besoin d'argent ?
Parce que l'argent est la seule puissance irrésistible.
Je comprends, mais prenez garde, vous allez devenir fou. Vous allez jusqu'au fatalisme. Il y a d'ailleurs certainement un but plus particulier.
Parlez sans embâge, je le veux.
Elle paraissait près de se fâcher, et cela me plaisait infiniment. J'étais ravie qu'elle me questionnât avec tant d'insistance.
« Oui, j'ai un but, » dis-je, « mais je ne puis vous dire lequel. »
Ou plutôt, c'est tout simplement parce que, avec de l'argent, je deviendrai, même pour vous, un homme.
Bah, et comment cela ?
Comment ? Vous ne comprenez pas comment je pourrais parvenir à être pour vous autre chose qu'un esclave ?
Ne me disiez-vous pas que cet esclavage faisait votre bonheur ? Moi-même, je le pensais.
Ah, vous le pensiez ! M'écriai-je avec une joie étrange. Qu'une telle naïveté me plaît de votre part.
Eh bien oui, cet esclavage fait ma joie. Il existe, il est réel, ce délice de descendre au dernier degré de l'avilissement.
Je pense souvent que le knout doit receler de mystérieuses jouissances. Mais je veux essayer d'autres plaisirs.
Tout à l'heure, à table, devant vous, le général me faisait des remontrances. Les 700 roubles par an, qu'il ne me paiera peut-être pas, lui en donnent le droit. Le marquis de Grillet lève très haut les sourcils quand il me voit, tout en faisant semblant de ne pas me remarquer.
Mais savez-vous que j'ai une envie folle de le tirer un jour par le nez ?
Quelle gaminerie ! Il n'y a pas de solution où l'on ne puisse se tenir avec dignité. La douleur doit nous relever au lieu de nous avilir.
Le beau cliché !
Mais êtes-vous bien sûr que je puisse me tenir avec dignité ? Je suis peut-être un homme digne, mais me tenir avec dignité, c'est autre chose. Tous les Russes sont ainsi, parce qu'ils sont trop richement et trop universellement doués pour trouver aussitôt l'attitude exigée par les circonstances. C'est une question de place publique. Il nous faut du génie pour concentrer nos facultés et les fixer dans l'attitude qu'il faut. Et le génie est rare. Il n'y a peut-être que les Français qui sachent paraître dignes sans l'être. C'est pourquoi, chez eux, la place publique a tant d'importance. Un Français laisse passer une offense réelle, une offense de cœur, sans la relever, pourvu qu'elle soit secrète. Mais une pichenette sur le nez, voilà ce qu'il ne tolère jamais, car cela constitue une dérogation aux lois des convenances. C'est pourquoi nos jeunes filles aiment tant les Français. C'est à cause de leur jolie attitude.
Le coq gaulois.
Pour moi, vous savez, cette attitude-là... Du reste, je ne suis pas une femme, et peut-être le coq a-t-il du bon.
Mais est-ce que je ne vais pas trop loin ? Aussi, vous ne m'arrêtez pas. Quand je vous parle, je voudrais vous dire tout, 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 et je perds un peu le respect. Je n'ai pas d'attitude, moi, je vous le confesse. Je n'ai même aucune qualité. Tout est arrêté en moi. Tout est mort. Vous savez pourquoi. Je n'ai aucune pensée humaine dans la tête. Je ne sais plus ce qu'on fait sur la terre, ni en Russie, ni ici. Je viens de Dresde, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas vu cette ville. Vous savez ce qui m'occupe. Comme je n'ai aucune espérance, comme je suis à vos yeux un zéro, je ne crains pas de vous parler franchement. Je ne vois que vous partout, et le reste m'est égal, sans que je sache pourquoi je vous aime. Il se peut très bien que vous ne soyez pas jolie du tout. Imaginez-vous que je ne sais vraiment pas si vous êtes jolie ou laide. Pour le cœur, il est certainement mauvais, et pour l'intelligence, elle est sans noblesse.
C'est sans doute pour cela que vous comptez m'acheter.
Vous acheter ? M'écriai-je.
Que dites-vous ?
Vous vous êtes oublié. Si ce n'est pas moi que vous voulez acheter avec les grosses sommes que vous gagnerez à la roulette,
C'est au moins ma considération.
Ce n'est pas tout à fait cela. Je vous ai déjà dit qu'il m'est difficile de m'expliquer. Ne vous fâchez pas de mon bavardage. Vous savez bien qu'on ne se fâche pas avec moi. Je ne suis qu'un fou. Et puis, fâchez-vous, s'il vous plaît. Chaque soir, là-haut, dans ma chambre, il me suffit de me rappeler le frôlement de votre robe pour être prêt de me ronger les poings. Cela vous fâche encore? Bon, je suis votre esclave. Profitez-en. Profitez. Il est probable que je vous tuerai un jour. Je vous tuerai, non pas parce que j'aurai cessé de vous aimer ou parce que je serai jaloux, mais simplement parce que j'ai parfois envie de vous manger. Vous riez.
Je ne ris pas du tout, dit-elle avec indignation, et je vous ordonne de vous taire.
Elle s'arrêta, suffoquée par la colère.
Oh Dieu, je ne sais pas si elle est jolie, mais que j'aime à la voir. Droite, immobile ainsi devant moi, tout irritée. Et c'est pourquoi je me plais souvent à provoquer sa colère. Peut-être l'avait-elle remarqué, et peut-être se fâchait-elle par complaisance. Je lui soumis aussitôt cette observation.
« Vous êtes un être de boue !» s'écria-t-elle avec dégoût.
« Ça m'est égal. Mais savez-vous qu'il est dangereux pour vous de vous promener seule avec moi ? Je suis souvent tentée de vous battre, de vous estropier, de vous étrangler. Croyez-vous que j'en viendrai là ? Ou bien j'aurai un accès de fièvre chaude ? Que peut me faire votre colère ? J'aime sans espoir. Et si je vous tue, il faudra que je me tue aussi. Je me tuerai alors le plus lentement possible, pour avoir à moi, je veux dire, pour ne pas partager avec vous au moins cette douleur. Après cela, comment ne serais-je pas fataliste ? Vous vous rappelez que sur le Schlagenberg, je vous ai dit « Un mot de vous et je me jette en bas ». Croyez-vous que je m'y serais jeté ? Quel bavardage stupide ! Stupide ou spirituel, c'est tout un, pourvu que je parle. Car auprès de vous, il faut que je parle, que je parle. Quand vous êtes là, je perds tout orgueil. Pourquoi vous aurais-je forcé à vous précipiter du Schlagenberg ? C'était tout à fait inutile.
Oh, quelle superbe intonation ! Comme vous avez bien dit cela ! Que d'offense dans ce magnifique « inutile ».
Je vous comprends très bien.
Inutile, dites-vous. Mais le plaisir est toujours utile. Et n'est-ce pas un plaisir que l'abus du pouvoir ? On écrase une mouche, on jette un homme du haut du Schlagenberg. Voilà les plaisirs. L'homme est despote par nature, et la femme bourreau. Vous, particulièrement, vous aimez beaucoup à torturer.
Elle m'observait avec une attention profonde. Ma physionomie exprimait sans doute toutes les sensations absurdes qui me possédaient. Je sentais mes yeux se gonfler de sang et l'écume mouiller mes lèvres. Certes, je me serais jeté du Schlagenberg. Certes, certes. Si ses lèvres avaient prononcé le mot « faites », sans que sa conscience en fût doutée, je me serais jeté. Je me rappelle mot pour mot cette conversation.
Pourquoi vous croirais-je ? Dit-elle sur un ton où il y avait tant de mépris, de ruse et de vanité que, mon Dieu, je l'aurais tué sans peine en ce moment. Je l'aurais très volontiers assassiné.
N'êtes-vous pas très lâche ? Reprit-elle tout à coup.
Peut-être bien, je ne me suis jamais demandé cela. Et si je vous disais « Tuez cet homme ?» « Le tueriez-vous ? » ?»«
Qui ? » ?»«
Et qui je voudrais ? » ?»«
Le petit français, n'est-ce pas ? » ?»«
Ne m'interrogez pas, répondez. Tueriez-vous celui que je vous désignerais ? Je veux savoir si vous parliez sérieusement tout à l'heure. »
Elle attendait si sérieusement, avec tant d'impatience, ma réponse, que je me sentis troublée.
« Me direz-vous enfin ce qui se passe ici ? » m'écriai-je. Avez-vous peur de moi ? Je vois très bien qu'une catastrophe est imminente. Vous êtes la belle-fille d'un homme ruiné, fou
et avilie par une passion irrésistible. Et vous voilà sous l'influence mystérieuse de ce misérable Français. Et maintenant, vous me posez sérieusement une pareille question ? Encore faut-il que je sache ? Ne pouvez-vous me parler une fois avec franchise ?
Il ne s'agit pas de cela. Je vous pose une question. Répondez-moi.
Eh bien, oui, oui, oui. Certainement, oui, je tuerai. Mais l'ordonnez-vous aujourd'hui ?
Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que j'aurai pitié de vous ?
Non, je donnerai l'ordre et je resterai caché.
Acceptez-vous ?
Pourrez-vous supporter cela ?
Ah, pas vous, pas un être comme vous.
Vous tuerez peut-être si je vous l'ordonne, mais ensuite vous perdrez la tête, une si faible tête. Et puis, vous me tuerez pour avoir osé vous envoyer...
Quelque chose comme un coup me frappa au cerveau. Certes, même alors, je considérais sa question comme une plaisanterie, comme une provocation. Et pourtant, elle avait parlé trop sérieusement. J'étais tout de même stupéfait qu'elle en fût venue à s'avouer à ce point son pouvoir sur moi, à oser me dire « Cours à ta perte, moi je resterai dans l'ombre ». Il y avait dans ses paroles un cynisme vraiment inouï. Mais comment se comporterait-elle ensuite avec moi ? Une telle complicité élève l'esclave jusqu'au maître. Et quoique notre conversation me parût chimérique, mon cœur tressaillait. Tout à coup, elle éclata de rire. Nous étions assis sur un banc, les enfants jouaient auprès de nous, non loin des équipages qui stationnaient. La foule circulait devant nous.
« Voyez-vous cette grosse femme ?» reprit Paulina. « C'est la baronne Wurmergelm. Il n'y a que 3 jours qu'elle est arrivée. Voyez-vous son mari ? Ce Prussien, long et sec, armé d'une canne ? Vous rappelez-vous comme il nous toisait avant-hier ? Allez tout de suite aborder cette baronne. Ôtez votre chapeau et dites-lui quelque chose en français.
Pourquoi faire ?
Vous juriez de vous jeter du Schlagenberg. Vous juriez que vous étiez prêt à tuer qui je voudrais. Au lieu de toutes ces tragédies, je ne vous demande qu'une comédie. Allez, sans aucun prétexte, je veux voir le baron vous donner des coups de canne.
Vous me défiez. Vous pensez que je ne le ferai pas ?
Oui, je vous défie. Allez, je le veux.
C'est une fantaisie ridicule. Mais j'y vais. Pourvu que cela ne cause pas des désagréments au général, et que le général ne vous ennuie pas à cause de cela. Ma parole, j'y vais. Mais quelle fantaisie ! Allez offenser une femme.
Je vois bien que vous n'êtes qu'un bavard, dit-elle avec mépris. Vous avez les yeux gonflés de sang, et c'est tout. Peut-être avez-vous trop bu à dîner. Croyez-vous donc que je ne comprenne pas combien c'est bête et que le général se fâchera ? Mais je veux rire, voilà tout. Vous faire offenser une femme, oui, et vous faire battre, oui, je le veux.
Lentement, j'allais accomplir ma mission. Certes, c'était très bête, mais pouvais-je ne pas me soumettre ? En m'approchant de la baronne, un souvenir me revint. Et puis, j'étais comme ivre. Un écolier ivre, comprenez-vous ? Chapitre 6. Voilà 2 jours de passé depuis cette fameuse sottise. Que de bruit, que de cris, et je suis la cause de tout cela. Mais j'y ai trouvé mon profit. Que j'ai ri. Je ne puis pourtant m'expliquer comment tout cela est arrivé. Suis-je fou ? Je le crois. Et puis je ne suis pas encore bien loin des bancs de l'école, et j'ai pris plaisir, je suppose, à cette grossière espièglerie. Cette Paulina, toujours elle. Peut-être ai-je agi par désespoir. En somme, qu'est-ce que j'aime en elle ? Elle me semble jolie, elle est svelte, un peu trop mince peut-être. On pourrait la ployer en deux et la nouer comme un ruban. Elle a tout ce qui fait souffrir, précisément tout ce qui fait souffrir. Ses cheveux sont d'un blond roux, ses yeux sont de véritables yeux de chat, mais
quelle fierté dans son regard. Il y a 4 mois, quand je suis entrée dans la famille, un soir, elle causait seule dans le salon avec 2 grillés, et elle le regardait avec un tel air que... Quand je suis rentrée chez moi pour me coucher, je me suis imaginée qu'elle venait de le souffleter. C'est depuis ce soir-là que je l'aime. Mais arrivons au fait. Je descends donc dans le sentier, je m'arrête au beau milieu, attendant la baronne et le baron. À 5 pas, j'ôte mon chapeau et je salue. Je me rappelle que la baronne portait une robe de soie gris-perle, d'une ampleur extraordinaire, avec des volants, une crinoline et une traîne. Toute petite, cette baronne, très grosse, avec un menton si prodigieux qu'il couvrait toute sa gorge. Le visage rouge, les yeux petits, méchants, insolents. Elle marchait comme si elle faisait honneur à la terre en la touchant du pied. Le baron a un visage composé de 1000 petites rides, des lunettes, 45 ans. Ses jambes commencent à sa poitrine, signe de race. Orgueilleux comme un paon et maladroit. Type de mouton. Je vis tout cela en 3 secondes. Mon salut et mon coup de chapeau arrêtèrent à peine leur attention. Le baron fronça légèrement le sourcil, la baronne venait droit à moi sans me voir. « Madame la baronne, » dis-je très distinctement, très haut et en détachant chaque mot, « j'ai l'honneur d'être votre esclave. » Puis je saluai, je remis mon chapeau sur ma tête, et en passant auprès du baron, je tournai poliment mon visage vers lui et lui adressai un sourire significatif. Paulina m'avait ordonné d'ôter mon chapeau, mais l'espièglerie était de mon initiative. Le diable sait qui me poussait. Je me sentais comme précipité d'une montagne. « Hein ?» grogna le baron en se tournant vers moi avec un étonnement mêlé de colère. Je m'arrêtai en continuant de sourire. Il était stupéfait et levait ses sourcils jusqu'à la racine des cheveux. La baronne se retourna aussi de mon côté, très surprise, encore plus courroucée. Les passants commençaient à s'attrouper. « Hein ?» grogna de nouveau le baron en redoublant d'étonnement et de colère. « Yavol !» C'est cela, traînai-je en continuant à le regarder dans le blanc des yeux. « Sinci Rassand, êtes-vous fou ? » s'écria-t-il en brandissant sa canne. Mais il resta le bras en l'air, plus tremblant de peur que de colère. C'était, je crois, ma toilette qui l'embarrassait. J'étais mis à la dernière mode, comme un homme du meilleur monde. « Yawol !» criai-je tout à coup et de toutes mes forces, en appuyant à la façon des Berlinois qui emploient à chaque instant dans la conversation cette locution et qui traînent sur la lettre O pour exprimer les différentes nuances de leurs pensées. Le baron et la baronne se retournèrent vivement et s'enfuirent, épouvantés. Je retournai sur mes pas, et allait, sans me presser, vers Paulina. Mais, 100 pas avant de l'atteindre, je la vis se lever avec les enfants et se diriger vers l'hôtel. Je la rejoignis près du perron. « J'ai accompli la... bêtise !» lui dis-je. « Eh bien, maintenant, débrouillez-vous » répondit-elle sans me regarder, et elle disparut dans le corridor. Toute la soirée, je me promenais dans la forêt. Dans une petite isba, je mangeais une omelette. On me prit, pour cette idylle, 1,5 thalers. À 11 heures seulement, je rentrais. On me demanda aussitôt de la part du général. Il m'attendait dans la grande chambre, celle où il y a un piano. Il se tenait debout. De Grillé était nonchalamment assis sur le divan. « Qu'avez-vous fait, monsieur ?» commença le général en prenant une attitude très majestueuse. « Permettez-moi de vous le demander. » « Abordez donc directement l'affaire, général. Vous parlez probablement de ma rencontre d'aujourd'hui avec un Allemand. » « Avec un Allemand. Mais le baron Wilmer Gelm est un personnage important, et vous avez offensé sa femme. »
Pas le moins du monde.
Vous leur avez fait peur, monsieur,
s'écria le général.
Pas le moins du monde. Déjà à Berlin, mon oreille s'était habituée à cet interminable Jawohl qu'ils traînent d'une manière si dégoûtante. En rencontrant dans l'allée cette nichée de baron, je ne sais pourquoi le Jawohl me revint à l'esprit et m'enragea. De plus, voilà déjà 3 fois que la baronne me rencontre, et 3 fois qu'elle marche droit vers moi comme si je devais nécessairement m'effacer sur son passage. Hé, j'ai mon amour-propre. J'ai ôté mon chapeau très poliment, je vous jure, et j'ai dit « Madame la baronne, je suis votre esclave. » Et quand le baron s'est mis à crier « Hein ?» je n'ai pu faire autrement que de me mettre à hurler « Jawohl !» Et je l'ai dit 2 fois, la première fois très simplement, et la seconde en criant de toutes mes forces. J'étais ravie de mon explication. J'avais plaisir à tartiner toute cette histoire aussi stupidement que possible, et plus ça durait, plus j'y prenais goût.
« Oh, ça !» s'écria le général. « Vous moquez-vous de moi ?»
Il expliqua en français à De Griers que décidément je cherchais une affaire. De Griers sourit avec mépris et haussa les épaules.
« Pour Dieu, n'ayez pas cette pensée. J'ai fait une sottise, j'en conviens. C'est une inconvenante espièglerie, mais ce n'est rien de plus. Je m'en repens d'ailleurs, mais j'ai une excuse. Voilà 2 ou 3 semaines que je ne vais pas bien. Je me sens nerveux, irrité, fantasque, malade, et je perds tout empire sur moi-même. Ma parole, j'ai parfois envie de prendre à partie le marquis de Griers qui est là, et... mais je ne terminerai pas, ça pourrait l'offenser. En un mot, ce sont des symptômes morbides. J'ignore si la baronne voudra bien accepter ses excuses, car j'ai l'intention de lui faire des excuses. Je ne pense même pas entre nous qu'elle les accepte, d'autant plus que ces derniers temps, on a beaucoup abusé, au point de vue criminel, de la maladie comme circonstance atténuante. L'avocat et le médecin s'entendent pour découvrir un fou sous le masque d'un meurtrier. Mais le baron et la baronne sont de l'ancien temps. De plus, ce sont de grands seigneurs. Ils ignorent les progrès de la science juridico-médicale, et de telles explications seraient malvenues auprès d'eux. Qu'en pensez-vous, général ? Assez, monsieur. Je vais, une fois pour toutes, me débarrasser de vous. Je vous défends de faire aucune excuse à la baronne. Ce serait de votre part une nouvelle offense. Le baron a appris que vous étiez de ma maison, et nous nous sommes expliqués ensemble. Un peu plus, il me demandait satisfaction. Comprenez-vous à quoi vous m'exposiez, monsieur ? Je lui ai donné ma parole qu'aujourd'hui même vous auriez cessé de m'appartenir.
Permettez, général, est-ce bien lui qui exige que vous vous défassiez de moi, puisque je suis de votre maison, comme vous daignez l'avouer ?
Non, mais je me suis cru en devoir de lui fournir cette réparation, et il s'en est contenté. Nous nous séparons, monsieur. Je vous devais encore 43 florins, les voici. Adieu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes l'un pour l'autre des étrangers. Excepté des ennuis, je n'ai rien eu de vous. Je vais avertir le majordome que dorénavant je ne répondrai plus de vos dépenses à l'hôtel. J'ai l'honneur d'être votre serviteur.
Je pris l'argent, je saluai le général et lui dis très sérieusement « Général, la chose ne peut se terminer ainsi. Je regrette beaucoup de vous avoir causé des désagréments. Mais veuillez observer que vous avez eu tort de répondre de moi devant le baron. Que signifie l'expression « Cet homme est de ma maison ». Je suis précepteur chez vous. Je ne suis ni votre fils ni votre pupille. Vous n'avez pas à répondre de mes actions. J'ai 25 ans, je suis licencié et noble. Je vous suis étranger. Je constitue moi-même une individualité juridiquement responsable. Il faut tout le cas que je fais de vos innombrables qualités pour que je renonce à vous demander, à vous-même et tout de suite, une réparation pour l'audace que vous avez eue de répondre pour moi. » Le général était tellement abasourdi qu'il ouvrit la bouche, fit un effort pour parler, étendit les mains, puis tout à coup se tourna vers le Français et lui expliqua que je parlais de le provoquer en duel. Le Français se mit à ricaner. « Mais quant au baron, continuai-je sans me laisser déconcerter par l'attitude de monsieur de Grillé, je n'ai pas du tout l'intention de laisser passer les choses ainsi. Et puisque vous vous êtes mêlé de cette affaire, général, en consentant à écouter les plaintes du baron, j'ai l'honneur de vous annoncer que pas plus tard que demain matin, j'irai demander au baron, en mon nom, pourquoi, ayant affaire à moi, il s'est adressé à une autre personne, comme si je n'étais pas digne de lui répondre. » Ce que je pressentais arriva. Ce nouveau projet mit le comble à l'effroi du général. « Comment ? Vous avez l'intention de continuer cette maudite affaire ? N'ayez pas cette audace, monsieur, ou bien je vous jure, il y a des autorités ici, et moi, en un mot, mon rang et celui du baron, enfin, on vous arrêtera, on vous expulsera par voie de police, comprenez-vous ? Général, répondis-je toujours calme, on ne peut pas m'arrêter sans motif. Vous ne savez pas encore dans quels termes je parlerai au baron. Vous vous inquiétez inutilement. Par Dieu, Alexis Ivanovitch, renoncez à cette intention ridicule !» dit le général, devenu tout à coup suppliant. Il avait même pris mes mains dans les siennes. « Qu'en sortira-t-il ? Des désagréments ? Convenez-vous même que je suis forcé de me tenir ici d'une certaine façon, surtout maintenant que... Enfin, surtout maintenant. Oh, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître ma position. Quand nous partirons d'ici, je suis tout disposé à vous reprendre chez moi. Mais pour l'instant... Eh bien, en un mot, vous comprenez la chose. » S'écria-t-il en faisant un geste de désespoir. « Alexis Ivanovitch, vous comprenez la chose !» Je me retirai en priant le général de ne pas s'inquiéter, en l'assurant que tout se passerait très bien. À l'étranger, les Russes sont quelquefois lâches. Ils craignent trop du « qu'en dira-t-on ? » Ils s'inquiètent beaucoup de savoir si une chose est convenable ou non. Ils ont l'âme dans un corset, surtout ceux qui prétendent à une situation en vue. Mais le général m'a laissé entendre que sa situation personnelle est particulièrement difficile. C'est précisément à cause de cette situation particulièrement difficile qu'il était devenu tout à coup si lâche et avait changé de ton avec moi. Mais le lendemain, ce sot pouvait changer encore et s'adresser aux autorités. Il fallait donc me tenir sur mes gardes. Je n'avais d'ailleurs aucun intérêt à irriter le général. Mais je voulais me venger de Paulina et l'amener à me prier elle-même de m'arrêter, car mes imprudences pouvaient finir par la compromettre. De plus, je ne voulais pas, devant elle, reculer et passer pour une poule mouillée. Ce n'était pas au baron à se servir de sa canne avec moi. Je tenais à me moquer de tous et à me tirer en homme de cette affaire. Chapitre 7. Ce matin, j'ai appelé le garçon et demandé que désormais on fît un compte à part pour moi. J'ai conservé ma chambre, qui n'était pas trop chère. D'ailleurs, je possède 600 florins. Et qui sait, peut-être une fortune. Chose étrange, je n'ai encore rien gagné et je ne puis m'empêcher d'avoir des pensées de millionnaire. Je me proposais, malgré l'heure matinale, d'aller chez Monsieur Ashley, à l'hôtel d'Angleterre, quand de Grillé entra chez moi. C'était la première fois qu'il me faisait tant d'honneur. Pendant ces derniers temps, nous avions eu des rapports un peu tendus. Il me méprisait et je le détestais. J'avais des motifs particuliers pour le détester. Sa visite m'étonna donc beaucoup. Il me salua très poliment, me fit des compliments banals sur mon installation, et me voyant le chapeau à la main, me demanda si j'allais me promener. Je lui répondis que je me rendais chez M. Asley pour affaires. Aussitôt son visage devint soucieux. De Griers est, comme tous les Français, gai, aimable, quand il le faut ou quand cela rapporte, et terriblement ennuyeux quand la gaieté et l'amabilité ne sont pas nécessaires. Le Français est très rarement aimable par tempérament. Il ne l'est presque jamais que par calcul. S'il sent la nécessité d'être original, sa fantaisie est ridicule et affectée. Au naturel, c'est l'être le plus banal, le plus mesquin, le plus ennuyeux du monde. Il faut être une jeune fille russe, je veux dire quelque chose de très neuf et de très naïf, pour s'éprendre d'un Français. Il n'y a pas d'esprit sérieux qui ne soit choqué par l'affreux chic de garnison qui fait le fond de ses manières convenues une fois pour toutes, par cette amabilité mondaine, par ce faux laisser-aller et cette insupportable gaieté. « Je viens pour affaires, » commença-t-il d'un ton dégagé. « Je suis l'envoyé, ou, si vous préférez, l'intermédiaire du général. Il m'a expliqué la chose en détail. » « Et je vous avoue... »« Écoutez, monsieur de Griers, » interrompis-je. « Je vous agrée comme intermédiaire. Je ne suis qu'un outchitel. Je ne suis pas l'ami de la maison, et l'on ne me fait pas de confidence. Mais, dites-moi, êtes-vous de la famille? Car enfin, vous prenez intérêt à tout et à tous, vous êtes mêlé à tout, et tout de suite, c'est vous qu'on choisit pour l'intermédiaire. » Ma question lui déplut. Je suis lié avec le général par des intérêts communs et par d'autres considérations particulières, dit-il sèchement. Le général m'a envoyé vous prier de renoncer à vos intentions d'hier. Vos inventions sont très spirituelles, mais aussi très malencontreuses. Le baron ne vous recevra pas, et ce ne sont pas les moyens de se débarrasser de vous qui lui manqueront. Dès lors, pourquoi vous entêter? Le général vous a promis hier de vous reprendre à la première occasion favorable. Il vous autorise aujourd'hui à lui réclamer vos appointements sans le servir. C'est assez convenable, n'est-ce pas? » Je lui répondis avec calme qu'il se trompait, que le baron m'écouterait. Je le priai ensuite de me dire franchement s'il était venu chez moi dans un autre but encore et s'il ne désirait pas apprendre quel parti j'avais pris. « Mais sans doute, il est assez naturel que le général veuille savoir comment vous agirez. » Et pour m'écouter, il s'assit dans une position très commode, la tête renversée sur le dossier de son fauteuil. Je fis tous mes efforts pour lui laisser croire que je prenais la chose au sérieux. Je lui expliquai que le baron m'avait offensé en s'adressant au général comme si je n'étais qu'un domestique, qu'il m'avait fait priver de ma place, que naturellement je me sentais blessée, mais que je savais comprendre les différences de position sociale et d'âge. Je me tenais à grand-peine pour ne pas éclater de rire. « Je ne veux pas commettre une légèreté de plus, » ajoutai-je. « Je n'irai pas demander réparation au baron, mais je crois avoir le droit d'offrir mes excuses à la baronne. Pourtant, je renonce même à cela. » Les procédés offensants du général et du baron ne me le permettant plus. Tout le monde croirait que j'ai fait des excuses dans le but de rattraper ma place. Tout compte fait, il faudra donc que j'exige, moi, des excuses du baron, mais dans une forme assez modérée, par exemple qu'il me dise « Je n'ai pas voulu vous offenser ». Et alors, à mon tour, les mains libres et le cœur ouvert, je lui offrirai mes excuses. « En un mot, terminai-je, je demande que le baron me délie les mains. »« Fi ! Quelle subtilité ! Quelle finesse exagérée ! Mais avouez donc, monsieur, que vous faites tout cela pour ennuyer le général. Ou peut-être avez-vous quelque autre projet, mon cher monsieur... Monsieur Alexis, n'est-ce pas ? Mais, mon cher marquis... « En quoi cela vous intéresse-t-il ? » ?»« Eh bien, le général... »« Et le général, en quoi cela l'intéresse-t-il ? » ?»« Il manifestait hier quelque inquiétude, Mais comme il ne m'a rien expliqué,
il y a ici, il existe une circonstance particulière. »
Interrompit M. de Grillé sur un ton suppliant où le mécontentement perçait de plus en plus.
« Vous connaissez Mademoiselle de Comminges ?»«
C'est-à-dire Mademoiselle Blanche ?»«
Mademoiselle Blanche de Comminges et sa mère, Madame Veuve de Comminges. Vous savez que le général est amoureux et que le mariage est proche. Imaginez l'effet désastreux d'un scandale, d'une histoire... »
Je ne vois ici ni scandale ni histoire concernant ce mariage.
Mais le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, il fera une querelle d'allemand.
Alors cela ne me regarde plus, je ne suis plus de la maison du général. Je faisais tout mon possible pour qu'il ne comprît rien à ce que je lui disais.
Et d'ailleurs, s'il est entendu que Mademoiselle Blanche épouse le général, qu'attend-on? Et pourquoi cachait-on ce projet aux gens de la maison?
Je ne peux pas, enfin, ce n'est pas encore... Enfin, vous savez qu'on attend des nouvelles de Russie. Le général a besoin d'arranger ses affaires.
Ah, la babouchka!
De Grillé me regarda avec haine.
« En tout cas, reprit-il, je compte sur votre obligeance, sur votre esprit, sur votre tact. Certainement vous ferez cela pour cette famille, où vous êtes aimé comme un parent, estimé.
Mais enfin, j'ai été chassé. Vous prétendez maintenant que c'est pour la forme.
Mais convenez que si on vous disait
« Je ne veux pas te tirer les oreilles, mais tu dois dire partout que je te les ai tirées. »
Vous n'en seriez pas très flatté?
Alors, si aucune prière n'a d'effet sur vous, reprit-il sévèrement et avec hauteur, permettez-moi de vous dire qu'on prendra d'autres mesures. Il y a ici un gouvernement. On vous chassera aujourd'hui même. Que diable! Un blanc-bec tel que vous, provoquer en duel un personnage comme le baron, et soyez convaincu que personne ici ne vous craint. Mais j'en suis sûr, vous ne croyez pas que le général ose jamais vous faire jeter à la porte par ses laquais.
D'abord, je ne m'y exposerai pas,
répondis-je avec un calme extraordinaire. Vous vous trompez, monsieur de Grillé, tout se passera mieux que vous ne pensez. J'irai chez monsieur Asselet, je le prierai d'être mon second. Il m'aime et ne refusera pas. Il ira chez le baron qui le recevra. Je ne suis qu'un outchitel, un subalterne, mais monsieur Ashley est le neveu de Lord Pibroch. Tout le monde sait cela. Et Lord Pibroch est ici. Soyez sûr que le baron sera poli avec monsieur Ashley. D'ailleurs, s'il manquait aux convenances, monsieur Ashley en ferait une affaire personnelle. Et vous savez comme les Anglais sont entêtés. Il enverra au baron un ami, et vous savez qu'il a de très bons amis. Quant à maintenant...
De Grillé avait tout à fait peur, car ce que je disais était très vraisemblable et prouvait que j'avais vraiment l'intention d'avoir une affaire.
Mais je vous en supplie, laissez donc cela, reprit-il très doucement. On croirait vraiment que ça vous amuse. Ce n'est pas une satisfaction, c'est un scandale que vous cherchez. Je conviens d'ailleurs que c'est amusant et spirituel. C'est peut-être même ce qui vous plaît.
Mais enfin, se hâta-t-il d'ajouter en voyant que je prenais mon chapeau,
j'ai une lettre à vous remettre de la part d'une personne. Lisez, on m'a enjoint d'attendre la réponse. Et il me remit un petit billet plié et cacheté où je reconnus l'écriture de Paulina.
Il me revient, m'écrivait-elle, que vous avez l'intention d'éterniser cette histoire. Je vous prie d'y renoncer. Tout cela sottise. J'ai besoin de vous, et vous avez juré de m'obéir. Souvenez-vous du Schlagenberg. Obéissez, je vous prie. S'il le faut, je vous l'ordonne. Votre P. Postscriptum. Si je vous ai offensé hier, pardonnez-moi.
Tout était changé. Je me sentais pâlir et trembler. Le Français me regardait en dessous et évitait de rencontrer mon regard pour ne pas ajouter à ma confusion. J'aurais préféré qu'il recommençât à se moquer de moi.
« Bien, dites à Mademoiselle Paulina qu'elle se tranquillise, mais permettez-moi de vous demander pourquoi vous m'avez fait attendre si longtemps ce billet. Au lieu de tant bavarder, il me semble que vous auriez mieux fait de commencer par là.
Oh, je voulais... Tout cela est si étrange que vous devez m'excuser. Je pensais connaître plus vite vos intentions. En tout cas, j'ignore la teneur du billet, et je pensais que j'aurais toujours le temps de vous le remettre.
Allons donc. On vous a dit de ne me remettre ce billet qu'à la dernière extrémité, et vous pensiez tout arranger de vive voix. C'est cela, n'est-ce pas? Parlez franchement, monsieur de Grillet.
Peut-être, dit-il en me regardant d'un air très singulier.
Je pris mon chapeau. Il s'inclina et sortit. Il me sembla avoir un sourire sur ses lèvres.
Nous réglerons un jour nos comptes, Franzouzichka,
grognai-je en descendant. Je ne pouvais réfléchir à rien. Il me semblait qu'on venait de me frapper à la tête. L'air me rafraîchit un peu.
2 minutes après, 2 pensées me saisirent. La première, qu'on faisait une tragédie de toutes ces bagatelles.
Pourquoi ?
La seconde, que le petit Français avait décidément sur Paulina une étrange influence. Il suffit d'un mot de lui et elle fait tout ce qu'il veut. Elle écrit, elle descend jusqu'à me prier. Naturellement, leurs relations sont très mystérieuses. Elles ont été telles dès le premier jour, mais depuis quelque temps, j'observe que Paulina me méprise davantage. Son mépris va jusqu'au dégoût. Et j'ai observé aussi que De Grillet la regarde à peine. Il est tout juste poli. Cela signifie tout simplement qu'il la tient, qu'il la domine, qu'il l'a enchaînée.
Chapitre 8. À la promenade, comme on dit ici, c'est-à-dire dans l'allée des châtaigniers, j'ai rencontré mon Anglais.
« Oh oh ! » fit-il en m'apercevant. « J'allais chez vous, et vous allez chez moi. Vous avez donc quitté les vôtres ?»«
Dites-moi d'abord comment vous êtes au courant de cette affaire. Tout le monde s'en occupe donc ?»«
Oh non, il n'y a pas de quoi occuper tout le monde. Personne n'en parle. »
Comment le savez-vous alors?
Un hasard. Et où pensez-vous aller?
Je vous aime et voilà pourquoi j'allais chez vous.
Vous êtes un excellent homme, monsieur Ashley, lui dis-je. J'étais pourtant très intriguée de le voir si bien informé.
Au fait, je n'ai pas encore pris mon café. J'espère que vous ne refuserez pas d'en prendre avec moi. Allons donc au café de la gare. Nous causerons en fumant, je vous conterai tout, et vous me conterez aussi.
Le café était à 100 pas. Nous nous installâmes, j'allumai une cigarette.
Monsieur Ashley ne m'imita pas, et me regardant bien en face, se disposa à m'écouter.
« Je ne pars pas, » commençai-je.
« J'étais sûr que vous resteriez, » dit monsieur Ashley avec un air d'approbation.
En allant chez lui, je n'avais pas du tout l'intention de lui parler de mon amour pour Paulina. Je m'étais depuis longtemps aperçu de l'effet qu'elle avait produit sur lui, mais jamais il ne la nommait devant moi. Pourtant, chose étrange, aussitôt qu'il se fut assis, aussitôt qu'il eut fixé sur moi son regard de plomb, il me vint le désir de lui confier mon amour et toutes ses subtilités si compliquées. Je lui en parlai donc pendant toute une heure, et cela me fut extrêmement agréable, car c'était ma première confidence à ce sujet. Je m'aperçus qu'au moment où je me laissais emporter par ma passion, il ne pouvait dissimuler une certaine gêne. Et je ne sais pourquoi, en vérité, cela m'excitait à exagérer encore l'ardeur de mon récit. Je ne regrette qu'une chose, peut-être ai-je un peu trop parlé du Français.
Monsieur Ashley m'avait écouté jusque-là, immobile, taciturne,
en me regardant dans le fond des yeux. Mais quand je vins à parler du français, il m'arrêta net et me demanda sévèrement de quel droit je faisais des suppositions oiseuses sur un point indifférent au sujet de mon récit.
« Vous avez raison, lui dis-je.
Car vous n'avez le droit de faire sur ce marquis et sur Miss Paulina que des suppositions, n'est-ce pas ?»
Monsieur Ashley posait toujours ses questions d'une manière très étrange. Mais cette fois, une question si catégorique m'étonna de la part d'un être aussi timide.
« En effet, répondis-je. Vous avez donc mal agi, non seulement en me communiquant vos suppositions, mais même en les concevant.
« Bien, bien, j'en conviens, mais ce n'est plus de cela qu'il s'agit, »
interrompis-je encore étonné. Je lui racontai ensuite l'histoire de la veille dans tous ses détails, la sortie de Paulina, mon aventure avec le baron, ma démission, la lâcheté extraordinaire du général, et enfin je lui fis part de la visite du marquis de Grillé et lui montrai le billet.
« Qu'en pensez-vous ? » lui demandai-je.
« Je venais précisément vous demander votre opinion. Quant à moi, j'ai envie de tuer ce petit Français.
Hey, je le tuerai peut-être.
Qu'en pensez-vous ? »
« Je suis de votre avis. Quant à Miss Paulina, vous savez qu'on est parfois obligé d'avoir des rapports avec des gens qu'on déteste. Il y a des nécessités. Il est vrai que sa sortie d'hier est étrange. » Non pas que je croie qu'elle ait voulu se défaire de vous en vous ordonnant d'offenser ce baron armé d'une canne dont il n'a pas su se servir, mais parce que cette excentricité ne convient pas à l'excellente distinction de ses manières. Il est d'ailleurs évident qu'elle pensait que vous n'accompliriez pas ses ordres à la lettre.
« Savez-vous ? » m'écriai-je tout à coup en regardant fixement M. Ashley. « Je suis convaincue que vous connaissiez déjà cette histoire et que vous la tenez de Mademoiselle Paulina elle-même. »
Il me regarda avec étonnement.
« Vos yeux sont étincelants et j'y lis un soupçon, » reprit-il en se maîtrisant aussitôt. « Mais vous n'avez pas le moindre droit de me marquer des soupçons de cette nature. Je ne vous en donne aucun droit, entendez-vous, et je me refuse absolument à vous répondre. »
« Bien, assez, c'est inutile !» m'écriai-je avec agitation, sans pouvoir m'expliquer comment cette pensée m'était venue.
En effet, où et quand Paulina aurait-elle pu prendre M. Ashley pour confident ? Il est vrai que ces temps derniers, je voyais moins M. Ashley et que Paulina était devenue pour moi de plus en plus énigmatique. Énigmatique au point que, en racontant mon amour à M. Ashley, je n'avais rien pu dire de précis sur mes relations avec elle. Tout y était fantastique, bizarre, anormal.
« Je suis confus, dis-je encore. Je ne puis rien comprendre nettement à toute cette affaire. »
Je suffoquai. « Du reste, je vous tiens pour un très galant homme. Autre chose, je vais vous demander non pas un conseil, mais votre opinion. »
Je me tus. Puis, après quelques instants, je repris.
« Que dites-vous de la lâcheté du général ? Il a fait toute une affaire de mon escapade, toute une affaire. De Grillé lui-même, qui ne s'occupe que de choses graves, s'en est mêlé. Il a daigné me faire une visite, me prier, me supplier, lui, moi. Enfin, remarquez ceci, il est venu chez moi à 9 heures du matin, et il avait déjà entre les mains le billet de Mademoiselle Paulina. Quand donc avait-elle écrit ce billet ? L'avait-on réveillée pour cela ? Elle obéit à toutes les suggestions qui émanent de lui, et s'il le veut, elle descend jusqu'à me demander pardon. Mais je ne vois pas quel intérêt la pousse. Pourquoi ont-ils peur de ce baron ? Et qu'est-ce que cela leur fait que le général épouse Mademoiselle Blanche de Comminges ? Ils disent qu'ils doivent, pour ce motif, avoir une tenue particulière.
Mais convenez que tout cela est déjà beaucoup trop particulier.
Qu'en dites-vous ? Je lis dans vos yeux que vous êtes mieux informé que moi. »
Monsieur Ashley sourit et hocha la tête en signe d'affirmation.
Oui, dit-il, je suis mieux informé que vous. Mademoiselle Blanche est l'unique cause de tous ces ennuis. Voilà toute la vérité.
Mais quoi, Mademoiselle Blanche ?
M'écriai-je avec impatience, car j'espérais apprendre quelque chose de précis sur Paulina.
Ne vous semble-t-il pas que Mademoiselle Blanche a un intérêt particulier à éviter une rencontre avec le baron ? Comme si cette rencontre devait nécessairement être désagréable, ou, pis encore, scandaleuse ?
Et puis,
il y a 3 ans, Mademoiselle Blanche était déjà ici, à Roultenbourg. J'y étais aussi. Elle ne s'appelait pas encore Mademoiselle de Comminges, et la veuve de Comminges n'existait pas. Du moins, personne n'en parlait. De Grillet n'y était pas non plus. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune parenté entre eux et qu'ils ne se connaissent que depuis peu de temps. Je suis même fondé à croire que le marquisat de Grillet est assez récent. Son nom de Grillet doit être de la même date. Je connais ici quelqu'un qui l'a rencontré jadis sous un autre nom.
Il a pourtant des relations très sérieuses.
Qu'importe, Mademoiselle Blanche aussi. Or, il y a 3 ans, sur la demande de la baronne en question, Mademoiselle Blanche a été invitée par la police à quitter la ville. Et c'est ce qu'elle fit.
Comment ?
Elle était arrivée ici avec un certain prince italien décoré d'un nom historique, quelque chose comme Barbarini. Un homme tout constellé de bijoux, de pierreries très authentiques. Il sortait dans un magnifique attelage. Mademoiselle Blanche jouait aux 30 et 40, d'abord avec succès, puis avec chance contraire. Un soir, elle perdit une grosse somme. Mais le vrai malheur, c'est que le lendemain matin, le prince disparut, et avec lui disparurent chevaux et voitures. La note de l'hôtel s'élevait à un chiffre énorme. Mademoiselle Zelma, au lieu de Madame Barbarini, elle était devenue Mademoiselle Zelma. Était dans un désespoir extrême. Elle pleurait, criait, et dans sa rage déchirait ses vêtements. Il y avait dans le même hôtel un comte polonais. À l'étranger, tous les Polonais sont comtes. Mademoiselle Zelma, qui lacérait ses robes et se déchirait le visage de ses ongles roses et parfumés, produisit sur lui une certaine impression. Ils eurent un entretien, et à l'heure du dîner, elle était consolée. Le soir, le comte polonais se montra dans les salons de jeu, ayant à son bras Mademoiselle Zelma. Elle riait très haut, comme à l'ordinaire, plus libre même que d'habitude dans ses manières. Elle était de la catégorie de ces joueuses qui, à la roulette, écartent de vive force les gens assis pour se faire place. C'est le chic particulier de ces dames, vous l'aurez certainement remarqué.
Oh oui.
Elle joua. Et perdit plus encore que la veille. Pourtant, ces dames sont ordinairement heureuses au jeu, comme vous le savez. Elle eut un sang-froid étonnant. D'ailleurs, mon histoire finit là. Le comte disparut comme le prince, un beau matin, sans prendre congé. Le soir de ce jour-là, Mademoiselle Zelma vint seule au jeu et ne rencontra pas de cavalier de bonne volonté. En 2 jours, elle fut nettoyée. Quand elle eut perdu son dernier louis, elle regarda autour d'elle et aperçut à ses côtés le baron Wurmengelm, qui la considérait très attentivement et avec une indignation profonde. Elle ne prit pas garde à cette indignation, décocha au baron un sourire de circonstance et le pria de mettre pour elle 10 louis sur la rouge. La baronne se plaignit, et le soir même, Mademoiselle Zelma recevait la défense de paraître désormais à la roulette.
Vous vous étonnez que je sois au fait de toute cette chronique scandaleuse. Je la tiens d'un de mes parents, M. Fider, qui conduisit Mademoiselle Zelma dans sa voiture de Roultenbourg à Spa. Maintenant, elle veut devenir générale, probablement pour éviter les notifications de la police. Elle ne joue plus, elle doit prêter sur gage aux joueurs. C'est beaucoup plus lucratif. Je soupçonne même que le pauvre général est son débiteur, et peut-être aussi de Grillet. à moins que ce dernier ne soit, au contraire, son associé. Vous comprenez maintenant qu'elle doit éviter, au moins jusqu'à son mariage, d'attirer l'attention de la baronne et du baron.
« Non, je ne comprends pas !»
criai-je en frappant de toutes mes forces sur la table, de sorte qu'un garçon accourut tout effaré.
« Dites-moi, monsieur Ashley, si vous saviez depuis longtemps toute cette histoire, et par conséquent, qui est mademoiselle Blanche de Comminges, pourquoi n'avez-vous prévenu ni moi, ni le général, ni surtout, surtout mademoiselle Paulina, qui se montre à la gare, en public, avec mademoiselle Blanche, bras dessus, bras dessous? Est-ce admissible ?»«
Je n'avais pas à vous prévenir. Vous ne pouviez rien changer à la situation, » répondit tranquillement M. Ashley.
« Du reste, de quoi vous prévenir? Le général connaît peut-être Miss Blanche mieux que je ne la connais, et il se promène pourtant avec elle et avec Miss Paulina. C'est un bien pauvre homme, ce général. J'ai vu hier Miss Blanche sur un beau cheval, en compagnie de De Grillet et du prince russe, tandis que le général suivait à quelque distance. Le matin, je lui avais entendu dire qu'il avait mal aux jambes. Il se tenait bien en selle, pourtant. » D'ailleurs, tout cela ne me regarde pas. Et il n'y a pas longtemps que j'ai l'honneur de connaître Miss Paulina. Enfin, je vous ai déjà dit que je ne vous reconnais pas le droit de me poser certaines questions, quoique je vous aime sincèrement.
« Bien, » dis-je en me levant, « il est pour moi clair comme le jour que mademoiselle Paulina sait tout ce qui concerne mademoiselle Blanche, mais qu'elle ne peut se séparer de son français. » Et que c'est pour cette raison qu'elle consent à la compagnie de mademoiselle Blanche. Aucune autre influence ne peut l'y déterminer. Et c'est sous cette influence aussi qu'elle me suppliait de ne pas toucher le baron, après m'avoir pourtant elle-même excitée contre lui. Du diable si j'y comprends quelque chose.
Vous oubliez d'abord que cette Miss de Comminges est la fiancée du général, et que Miss Paulina a un frère et une sœur, les enfants du général dont elle est la pupille. Ces enfants sont abandonnés par ce fou et ne manqueront pas d'être exploités.
Oui, oui, c'est cela. Abandonner les enfants, c'est les perdre. Rester, c'est veiller à leurs intérêts et sauver peut-être une partie de leur fortune.
Oui, oui. Mais tout de même, oh, je comprends maintenant qu'ils s'intéressent tous à la santé de la babouchka.
De qui parlez-vous ?
De cette vieille sorcière de Moscou qui se meurt. On attend impatiemment une dépêche annonçant que c'est chose faite, que la vieille est morte.
En effet, tout l'intérêt se concentre sur elle. Tout gît dans l'héritage. Aussitôt que le testament sera ouvert, le général se mariera. Miss Paulina sera libre et De Grillet...
Eh bien, De Grillet,
on lui paiera tout ce qu'on lui doit. Et il ne reste ici que pour être payé.
Seulement pour être payé, vous pensez?
Je ne sais rien de plus.
Eh bien, moi, j'en sais davantage. Il attend aussi sa part de l'héritage. Car alors, Paulina aura une dot et se jettera aussitôt à son cou. Toutes les femmes sont ainsi. Les plus orgueilleuses deviennent les plus viles esclaves. Paulina n'est capable que d'aimer passionnément. Voilà mon opinion sur elle. Regardez-la, quand elle est seule, plongée dans ses pensées. Il y a en elle quelque chose de fatal, d'irrémédiable, de maudit. Elle est capable de tous les excès de la passion. Elle...
Mais qui m'appelle ? M'écriai-je tout à coup. Qu'est-ce qui crie ? J'ai entendu crier en russe « Alexei Ivanovitch ». Une voix de femme, entendez-vous ? Entendez-vous ?
En ce moment, nous approchions de l'hôtel. Nous avions quitté le café depuis longtemps sans nous en apercevoir.
En effet, j'ai entendu une voix de femme, mais je ne sais qui elle appelle. Maintenant, je vois d'où viennent ces cris, dit Monsieur Ashley en m'indiquant notre hôtel. C'est une femme assise dans un grand fauteuil que plusieurs laquais viennent de déposer sur le perron. On apporte des malles. Elle vient sans doute d'arriver.
« Mais pourquoi m'appelle-t-elle ?
Voyez, elle crie encore et elle fait des signes.
Je vois, dit Monsieur Astley.
Alexei Ivanovitch! Alexei Ivanovitch! Ah, mon Dieu, quel imbécile!
Ces cris venaient du perron de l'hôtel. Nous nous mîmes à courir, mais, en arrivant, les bras me tombèrent de stupéfaction et je demeurai cloué sur place.